Salut Cafard.
Salut Cancrela.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah, bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On n'a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9.
Bonjour.
Bon, on l'a fait en même temps.
Oui, c'est bien.
On est trop synchro, quoi. Oui. Donc, vous écoutez les blablates sur CFM Rodez 107.9. Une nouvelle émission pour 2019.
Voilà, et une émission en public. Peut-être que vous entendrez des petites voix qui n'arrivent pas à se contrôler.
Ouais, il y a des petites blattes qui traînent dans le studio.
Ouais. C'est nos stagiaires de première année maternelle qui sont là.
C'est ça, ils sont tellement captivés par la chronique de Guillaume sur les livres jeunesse qui viennent.
Eh oui.
Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de sens.
Ouais, c'est une bonne... Oui, très bien.
Ça résume bien.
Une bonne synthèse des deux bouquins, ouais.
Les sens. Alors, pendant qu'on écoute la première chanson, réfléchissez à quels sont les cinq sens de l'être humain. Alors, tout de suite, un petit truc pour nous faire plaisir en ce début d'année 2019.
C'est quoi?
Ah, devine.
Ah bon,
tu peux me dire à la fin.
La musique?
Ouais.
Ok.
C'est parti. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Alors, Monsieur Mitt?
Tu m'as dit le titre tout à l'heure, j'ai déjà oublié, pendant la musique, j'ai d'ailleurs aussi oublié le nom de l'auteur. Non, je sais pas. Je connais la musique, on la passe souvent à la radio. Et...
C'était Yael Naïm,
Naïm, voilà, bien sûr.
Alors.
Donc, on parle des sens aujourd'hui.
Ouais, on parle des sens.
Et puis on a oublié de dire de faire un petit coucou à Cancrela qui est toujours coincé sous ses bouquins.
Dis donc, c'est des grosses piles de livres.
Ouais, mais grave. Et en fait, je crois que c'est l'encyclopédie universaliste, tu vois. Mm-hmm. Mais la vieille, tu sais, où il parlait encore de l'URSS et tout, elle est coincée, tout. Mm-hmm. Elle doit être coincée à U.
Bah, si elle est à U, ça va, elle avance.
Oui, grave, elle y est presque. Plus que quelques lettres, on y est.
Donc les sens, allez, on va dire un peu plus, c'est l'olfactif pour toi et la vue pour moi.
C'est ça.
Voilà.
Mm-hmm. Mais de quoi on va parler? Ça, c'est la grande question. Mm. Moi, je vais parler d'un bouquin sur le parfum.
Le parfum.
Il s'appelle
Le parfum.
Le parfum. Ouais, magnifique. Hein, un livre très connu de Patrick Susskind qui s'appelle Le parfum, histoire d'un meurtrier, publié en 1985.
C'est le seul livre que je connais de lui.
Oui, mais c'est le plus connu de lui, en fait. Et puis, franchement, entre nous, c'est le meilleur aussi.
Ah bon.
Après. Bon, il a fait quelques 2-3 bouquins de plus, mais franchement, c'était pas très folichon, quoi. Alors, je disais, Le parfum de Patrick Susskind, publié en 1985, a connu un énorme succès dès sa première publication. Et en 20 ans, il a été vendu à plus de 150 millions d'exemplaires et traduit en 45 langues. Donc, c'est quand même the bouquin, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, toutes les personnes qui l'ont lu s'accordent à dire qu'il est génial, ce bouquin.
Mmh. Mmh.
Tu l'as lu, hein,
ouais,
monsieur Mitt?
Ouais.
Il est bien, hein?
Et je l'avais lu, on connaît ce qu'il était cité par Daniel Pennac, qui s'en servait, enfin peut-être que tu allais en parler, non, qui s'en servait, il lisait le début à ses élèves pour leur donner envie de lire ce livre-là.
Ah ben non, tu vois, je connaissais pas cette anecdote.
C'est dans Comme un roman de Pennac.
Ah oui,
qui est cité.
Oh, d'accord.
Et c'est comme ça que je l'ai lu moi aussi.
Ok. Non, moi j'en avais entendu parler, ouais, du fait que c'était très voyage olfactif, etc. Du coup, ça m'a intrigué parce que c'est un peu un truc, quand même, un bouquin. Qui te parle d'odorat, c'est quand même assez particulier, quoi. Donc, c'est aussi un roman d'aventure, une fresque, on peut dire, à une fresque historique, parce que ça a quand même beaucoup de détails historiques. Hein,
ça sur, se passe à quelle époque?
18e siècle en France, et dans plusieurs villes, en fait. Ça se passe à Paris, à Montpellier, à Grasse, et puis aussi dans le Massif central et sur les routes d'une manière générale. Et c'est un livre en 4 parties qui fait 280 pages, donc ça va, ça se lit quand même. Un petit résumé. Le personnage principal s'appelle... Est-ce que tu t'en rappelles, monsieur?
Non, du tout. Mais il y a une question... Il est question aussi de Blatt ou de...
Ouais, c'est ça.
De comment...
Presque.
De... Je sais plus, de... Petite
ouais,
bestiole, quoi, qui peut vivre longtemps sans manger.
Ah oui, ça, c'est l'histoire de la tique, ouais.
Là, c'est une tique, ouais. Il est comparé à une tique aussi, ça.
Exactement.
Personnage, ouais.
Le personnage principal est comparé à une tique dans une grande partie du roman. Et donc, oui, tu vois, on se retrouve, tu vois, entre Blatt, là, c'est bien.
Donc,
le personnage principal s'appelle Jean-Baptiste Grenouille.
Voilà.
Et il est né dans la puanteur, en 1738 à Paris, sous l'étale d'une poissonnerie. Bossu difforme, il va peu à peu développer un don extraordinaire. Il peut tout sentir, analyser la moindre odeur. Après avoir travaillé chez un tanneur, il devient apprenti, puis compagnon chez un parfumeur. Puis retiré dans une grotte du Massif central, il médite sur la création du parfum absolu qui permettrait d'inspirer l'amour. Parce que, en fait, Grenouille n'a pas d'odeur. Il faut donc qu'il en s'en crée une. À Grasse, donc dans la dernière partie du livre, il va poursuivre ses recherches et devenir l'assassin de jeunes filles vierges pour leur dérober leurs odeurs et créer le parfum. Donc c'est vraiment toute une histoire sur les odeurs, le parfum, etc. Et c'est très intéressant parce que du coup, tu vois le personnage qui développe de plus en plus son odorat, en fait, au fur et à mesure de son enfance et de son adolescence, et ensuite qu'il exploite d'une manière plus ou moins pacifique... pendant sa vie d'adulte, puisque le sous-titre, c'est quand même « Histoire de meurtrier ». Donc, ce Grenouille, il vit à Paris. Toute son enfance, il est baladé de personne en personne, parce que bon, il n'a plus de mère, il n'a pas de père, etc. Et il vit au travers des odeurs. Son filtre, à lui, c'est vraiment les odeurs. Certes, pour nous, pour la plupart des gens, c'est la vue. Ouais, c'est surtout la vue, quoi. Le toucher, l'odorat. Et lui, c'est surtout l'odorat, quoi. Un petit extrait qui se passe, du coup, au début du livre, c'est-à-dire quand il est encore à Paris. Et c'est quand il va commettre son premier meurtre, parce que il est captivé par l'odeur d'une femme. Et du coup, c'est justement le passage où il est captivé par l'odeur que je vais vous lire maintenant. Donc il vient de la sentir, hein. Il vient de repérer cette personne. Sa sueur fleurée aussi frais que le vent de mer, le sébum de sa chevelure aussi sucré que l'huile de noix, son sexe comme un bouquet de lys d'eau, sa peau comme les fleurs de l'abricotier. Et l'alliance de toutes ces composantes donnait un parfum tellement riche, tellement équilibré, tellement enchanteur, que tout ce que Grenouille avait jusque-là senti en fait de parfum, toutes les constructions olfactives qu'il avait échafaudées par jeu en lui-même, tout cela se trouvait ravalé d'un coup à la pure insignifiance. 100 000 parfums paraissaient sans valeur comparé à celui-là. Ce parfum unique était le principe supérieur sur le modèle duquel devaient s'ordonner tous les autres. Il était la beauté pure. Donc voilà, Grenouille fasciné par ce parfum qu'il va essayer de recréer après en utilisant plusieurs techniques qu'il va apprendre par la suite du coup. Puisqu'à ce moment de l'histoire, en fait, il n'a pas encore vraiment commencé à expérimenter comment extraire les odeurs. Parce que son but à lui, c'est ça, c'est d'extraire les odeurs d'à peu près tout.
De les capturer, oui.
C'est ça. De les capturer. Donc les odeurs des fleurs, bien sûr, mais aussi les odeurs des gens, les odeurs des objets, voilà. Donc il fait plein de petites expériences. Est-ce que tu te rappelles comment il fait ?
Non.
Alors bien sûr, il fait par distillerie, hein, forcément. De choper les huiles, etc.
Ouais, j'en fais ça aussi.
Bah ouais, franchement, ça vient instinctivement à tout le monde, quoi. Tu dis, attends, je veux attraper une odeur, je fais quoi ? Ouais, je vais prendre un alambic et tout. Tatata. Et puis, il va utiliser la technique de l'enfleurage. Et alors ça, c'est un truc assez intéressant. C'est-à-dire, c'est une technique pour capter l'odeur d'un être vivant. Tu vas l'enduire d'une sorte de graisse et après envelopper le corps. Et au bout d'un certain moment, tu enlèves le bandage, tu enlèves la graisse, et normalement la graisse a pris un peu de l'odeur de la personne, et ensuite après tu la... je ne suis pas spécialiste, mais tu la redistilles, etc. Enfin, tu traites la graisse pour essayer de conserver l'odeur. Donc c'est ce qu'il va faire avec la plupart des femmes qu'il va assassiner vers la fin du roman. Plusieurs intérêts à ce bouquin. Déjà, bien sûr, explorer un sens qu'on oublie souvent, c'est l'odorat. Parce que c'est vrai, on l'utilise tous, mais c'est vraiment le truc auquel on fait pas attention, quoi. Enfin, consciemment, en tout cas.
Ouais, ça fait partie du décor olfactif.
Voilà, c'est ça.
Enfin, ça fait aussi partie de la communication non-verbale, quoi.
Exactement.
Suivant l'odeur de la personne que t'as en face, tu te fais aussi un avis, quoi. C'est là un doux parfum, bien prononcé, il va te paraître sympathique. Si c'est quelqu'un qui se néglige, qui a pas pris de douche depuis 2 semaines, voilà. Elle va te paraître un peu plus antipathique.
Ça, si elle pue, tu peux pas sentir.
Voilà. Si on rentre dans tout le vocabulaire des senteurs et tous les dictons des senteurs, là, on y est pour longtemps, quoi.
C'est ça, exactement. Ouais.
Une histoire qui pue, par exemple.
Je l'ai dans le nez.
Ouais, voilà.
Donc voilà, l'odorat, c'est vraiment un sens qu'on oublie, mais qui est quand même super intéressant. Et quand on lit ce livre, sincèrement, on sent les odeurs, quoi. Autre intérêt donc de ce livre, c'est le contexte historique, puisqu'on découvre la France du XVIIIe siècle, mais vraiment, pas vraiment romancée, quoi, telle qu'elle était à l'époque, quoi. Donc c'est-à-dire justement le fait que à l'époque, les populations, elles puaient, quoi. Parce qu'ils se lavaient beaucoup moins, parce que les déchets organiques étaient directement dans la rue. Enfin voilà, il y avait... tout ce truc de ça sentait, ça sentait le caca, ça sentait l'urine, ça sentait le poisson, enfin voilà. Et donc ça, c'est quand même super intéressant, et puis c'est véridique, puisque l'auteur, donc Patrick Susskind, a étudié l'histoire médiévale et contemporaine, en fait. Et après, il a écrit ce bouquin. Donc il était vraiment au fait de tout ça. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est la question de la reconnaissance, parce que c'est un roman vraiment là-dessus, dans le sens où il y a bien sûr la reconnaissance sociale, mais aussi la reconnaissance humaine, tout simplement, parce que ce qui se passe avec Grenouille, c'est qu'il est tellement... le fait qu'il n'ait pas d'odeur, et ce depuis la naissance, fait que ses interactions avec les autres êtres humains sont très particulières, parce que les autres n'arrivent pas à mettre le mot dessus, mais ils le rejettent, parce qu'ils le sentent pas, en fait.
Voilà, ouais.
Et donc, instinctivement, ils en ont peur, et ils le rejettent. Et du coup, tout le personnage de Grenouille, toute son inhumanité, justement, va se construire là-dessus, quoi, parce que en fait, c'était un enfant qui était tellement seul, un bébé dont presque personne ne s'occupait, quoi. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est raccroché à un de ses sens, et l'odorat. Et du coup, depuis qu'il est tout petit, il s'entraîne à sentir les différents parfums, à les analyser, à les catégoriser, etc. Il y a tout un travail là-dessus. Et du coup, comme il est complètement rejeté par la société et les êtres humains d'une manière générale, voilà, il se construit à travers ça. Et même, il y a toute une partie du passage où il vit seul, en fait. Il vit seul dans une grotte. Donc ça, c'est aussi un thème récurrent en littérature, l'exil dans la grotte, etc., dont j'avais déjà parlé dans une autre émission des Blablettes, avec Robinson Crusoe, qui justement se réfugie dans la grotte de l'île Esperanza, etc. Et donc là, c'est ce que fait Grenouille, et il va quand même rester 7 ans dans une grotte du Massif Central. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne supporte plus les êtres humains. Parce qu'il est rejeté par eux, bien sûr, mais aussi parce qu'ils sentent trop fort. C'est vraiment, il y a quelque chose qui, qui le dérange profondément. Et c'est au moment de la grotte qu'il se rend compte que lui n'a pas d'odeur. Et c'est de là que du coup, il va décider de créer ce parfum qui va faire que les gens vont l'aimer, en fait. Voilà. Voilà. Contrairement à d'autres qui vont essayer de, je sais pas, essayer d'avoir une reconnaissance sociale, etc., à travers, par exemple, ton métier, ou alors à travers, je sais pas moi, ta beauté physique, ou à travers ton éloquence, etc. Lui, ça va être à travers de son odeur. Et comme il a pas d'odeur, justement, il décide d'en créer une. C'est justement toute une recherche de la normalité, quoi. Avoir une odeur. Ça paraît bête comme ça, mais en fait, c'est fou, quoi. Mmh. C'est vrai, on n'arriverait même pas à s'imaginer quelqu'un qui n'a pas d'odeur, en fait. Et donc, on en arrive à un autre point intéressant du roman, c'est toute la partie, justement, tueur en série. Puisque Grenouille, c'est ça, c'est un tueur en série. Puisqu'au total, il va faire 25 victimes. Mmh. Je sais plus si c'est 25 ou 26. Parce qu'il y a la première qu'il tue à Paris. Et ensuite, toutes les autres, il va les tuer à Grasse. Et c'est là où il va utiliser la technique de l'enfleurage pour essayer de récupérer leur odeur. La plupart de ces femmes, c'est des femmes rousses. Mmh. Parce qu'il est fasciné par l'odeur des femmes rousses. Donc ça aussi, c'est un vieux cliché. Ouais. Bon, je sais pas s'il est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est un cliché. Petite anecdote en préparant cette chronique, c'est que j'ai vu Inspiration possible. Donc, on n'en est pas sûr, hein, mais il y avait un tueur en série au 19e siècle, un tueur en série espagnol qui s'appelait Manuel Blanco Roma Santa, qu'on a appelé le loup-garou d'Aléris. Je sais pas si tu connais.
Non.
Et en fait, c'est un tueur en série qui a tué des femmes et des enfants pour récupérer leur graisse pour faire du savon. Mmh. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même principe, mais bon, c'est possible que Patrick Süskind se soit inspiré de ce personnage, enfin, de cette personne, puisque là, pour le coup, c'est un véritable être humain. Du coup, le parfum de Patrick Süskind, c'est quand même genre le roman super connu, le grand classique de la littérature allemande, etc., qui du coup a été adapté en film, parce que sinon, c'est pas drôle. En 2006, donc qui s'appelle Le Parfum, histoire d'un meurtrier, tout simplement. C'est pas mal le film. Il est assez, il correspond assez au roman. Après, c'est dommage parce que ben justement, des fois autant le film, tu vois, ça apporte quelque chose, autant là, au contraire, ça fait perdre quelque chose parce que t'as pas toutes les descriptions des odeurs, quoi.
Bien sûr.
Ben, tu les as, mais pas aussi intensément que dans le roman, quoi. Et puis aussi, et ça c'est vraiment tout récent, une série Netflix qui s'inspire de ça. Où c'est un groupe de jeunes, en fait, de maintenant, qui commet des meurtres en s'inspirant, justement, du parfum.
Du livre, hein, des parfums.
Ouais. Ouais. Voilà. Et qui cherche aussi à faire le parfum, etc., etc. Je n'en dis pas plus si vous voulez voir la série. Et la série, elle s'appelle...
Le parfum ?
Ouais. Ouais. Quelle originalité. Voilà. Donc, un film très intéressant, ouais, mais surtout un livre très intéressant qui questionne vraiment sur... sur notre sens olfactif qu'on sous-estime beaucoup. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très primitif, quoi. La première chose que tu as dit tout à l'heure, la première chose que l'on fait dans une relation humaine, en fait, c'est sentir l'autre, quoi. Instinctivement,
ouais.
C'est ça. Et justement, après, il y a plein de théories scientifiques en plus qui disent qu'on est plus ou moins attiré selon les phéromones, etc., etc. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le sens olfactif, c'est qu'en fait, c'est un des seuls sens qui n'est pas vraiment dans l'instant présent. Parce qu'un parfum te rappelle un souvenir.
Ouais, j'allais le dire, j'allais en parler. Ouais.
C'est quelque chose qui est vraiment, qui te transporte dans tes souvenirs.
Tu n'as pas souvenir du parfum, c'est difficile à identifier un parfum que tu n'as pas en ta présence. Par contre, c'est un capteur de souvenirs. Si voilà. Tu sens un parfum de quelqu'un, ça va peut-être te rappeler une autre personne ou un autre lieu. Et ça te fait remonter les souvenirs à la surface, ouais.
Ouais. Donc c'est vraiment, tu vois, un des seuls sens qui fait ça, quoi. C'est quand même un sens très fort qu'on a tendance à sous-estimer. En tout cas, lisez ce livre parce qu'il est trop bien.
Ouais, il est trop bien. Ouais. Et justement, on parlera de mémoire après, pas d'odeur.
Mais c'est génial. Hein, on s'est pas concerté, mais on est super raccord là. C'est cool. Eh bien, Monsieur Mitt, on va écouter ta chanson?
Ouais, du chanteur anglais La Salami, une espèce de feel good musique, Jane is Gone.
À tout de suite.
Left wide open, but I took the other. There were shouts and screams, and me, well, I was arbitrator. Sat myself in between he and his replacement mother.
He seemed to be so briefly my good French brother, but the friendship is no longer on. Jean is going. But to put my loyalties up for adoption. And it seems to be to me that weed leaves lives forgotten. And we used to smoke those leaves oh so very often. Often and for very long. So Jean. His nose could smell that I was smitten with that girl from across the road. You see, I was love bitten. He'd tell me that he had my back and then my spine would stiffen. But a curse when I learned this word weren't really worth a pittance. Both of them had led me on. I weren't really much motivation to inspire him to be kind. I took a mental notation. These lies, no crimes of mine. My truths are on rotation. To be wise, I knew he'd provide all the right quotation. But his wisdom, it was just a con. So Jean is going.
Voilà, c'était une petite chanson anglaise, bien sympathique.
John is gone, ouais.
Et du coup, Monsieur Mitt, tu vas nous parler d'un livre jeunesse,
ouais.
C'est ça ?
Après le parfum, les couleurs, je vais vous parler de Hashtag Bleu, de Florence Hinkel, une auteure, autrice, auteuse, je ne sais plus comment on dit.
Auteure
de 45 ans, française. Le livre est paru aux éditions Soun en 2015. Il a obtenu une dizaine de prix littéraires, dont le prix des Incorruptibles en 2017. Alors c'est un roman jeunesse, donc les héros sont donc des adolescents. Il s'agit de Silas et Astrid, qui sont amoureux, on est très contents pour eux. Ils ont 16 ou 17 ans. Alors je vous donne un truc, hein, dans littérature jeunesse, tu le sais peut-être, Cafard, c'est les héros sont toujours un tout petit peu plus âgés que les lecteurs ciblés.
Pourquoi ?
Parce que les lecteurs et lectrices s'identifient volontiers plus facilement à des héros plus âgés qu'eux, c'est plus valorisant.
Donc, ah ouais, ils anticipent pas.
Ouais, c'est un truc que je vous donne. Donc là, c'est pour des lecteurs de 13-14 ans. C'est pas mal.
Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, quand on est ado, il nous tarde toujours
bien
d'avoir
sûr,
genre, j'ai 12 ans, il me tarde d'en avoir 13, j'ai 13 ans,
plus
il me tarde d'en avoir 14.
Plus tard, je serai comme mon héros.
C'est ça.
Voilà.
Et puis après, quand tu vieillis, tu fais, oh putain, je vais mourir dans 20 ans, oh, je vais mourir dans 10 ans, je vais mourir dans 5 ans.
On peut rentrer dans un long débat philosophique. Tiens, je lisais une citation en cherchant une citation, c'est dès qu'il est né, l'homme est assez vieux pour mourir.
Voilà. Ouais,
bon, petite parenthèse. Bon. Donc là, je vous parle d'un roman d'anticipation, c'est de la science-fiction dans un futur très 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 proche de nous, hein. C'est vraiment un monde qui est similaire au nôtre, à deux exceptions près. Alors il y a d'abord le réseau. Alors, il faut que je vous parle du réseau. C'est un peu le background de l'histoire, c'est le décor du fond qui intervient pas directement dans l'intrigue, mais qui est toujours présent, qui est toujours là. Et c'est un Facebook un poil plus intrusif que le nôtre. En fait, c'est le barreau de l'échelle au-dessus de notre Facebook à nous, quoi. C'est vraiment l'étape après.
Déjà que le nôtre est pas mal.
Ah bah tu vas voir. Donc, comme sur Facebook, les gens partagent leurs faits et gestes sur le réseau, et surtout tout ce qui relève de la coolitude. Bien sûr, on est hyper heureux, on a plein d'amis, on fait plein de trucs trop cool, on fait des selfies, on fait plein de smileys, tout ça, hein, bien sûr. Voilà. Donc, sauf que là, vous avez aussi une application sur le réseau qui réagit si vous ne postez rien au bout de 5 minutes. Et là, votre portable bip.
Mais c'est horrible.
Attends, tu vas voir, c'est encore plus horrible que ça. Le réseau vous dit, avec énormément de bienveillance, cela fait 5 minutes que vous n'avez rien publié. Vos amis vont s'inquiéter. Donc là, la petite technique pour être toujours en permanence connecté au réseau. Et alors bien sûr, on peut mettre l'application en mode sommeil. On a le droit de dormir quand même dans ce monde-là. Mais utiliser ce mode, par exemple en journée, bah ça fait de vous soit un gros feignant, vous pouvez pas l'utiliser trop longtemps, soit un marginal, un associable, quelqu'un de louche, ou alors quelqu'un qui est déprimé. Et là, on va venir vous aider là aussi. Et c'est la deuxième. Il s'agit de la deuxième différence avec notre époque dont je voulais vous parler. L'histoire se passe dans un monde où il y a une puissante injonction au bonheur. Encore que c'est aujourd'hui aussi, oui, on pourrait en discuter, déjà, mais ouais. ça commence pas mal. Je vous dis vraiment, c'est un monde très très proche du nôtre. Donc et même le bonheur est obligatoire pour les adolescents. Et dans leur intérêt,
les pauvres,
pour leur bien, il y a ce qu'on appelle la SED, qui oblitère tous leurs souvenirs douloureux. Alors la SED, c'est la cellule d'éradication de la douleur émotionnelle. Je vous explique. Donc les ados ou les adultes qui sont volontaires et qui le souhaitent, qui ont vécu des traumatismes, reçoivent un traitement chimique qui efface les sentiments de tristesse ou de douleur liés à des souvenirs dramatiques. Et il ne leur restera plus qu'un point bleu au poignet, d'où le titre du roman. Si par exemple, Cafard, si je dis dans la vraie vie, Cafard, je te dis ton chat est mort, tu te mets à pleurer, à te griffer le visage, te rouler par terre, tout ça, tu es inconsolable.
Tu me connais bien parce que c'est exactement ma réaction la réaction que j'aurais si mon chat mourait, c'est clair.
Et ben la SED interviendrait, te ferait un point bleu au poignet et on te dirait ton chat est mort, donc tu le saurais. Je dis ah oui c'est vrai. Voilà. Point barre. Voilà. Tu connaîtrais l'événement, mais ça ne te ferait plus rien. Alors, mais Silas, lui, il contrevient à ces deux particularités sociétales. D'abord, c'est un romantique. Et donc, il n'a pas envie de partager sa relation avec Astrid, avec l'ensemble du réseau. Ce qu'il ressent pour elle, et réciproquement, il veut le garder pour lui. Donc, techniquement, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Voilà. Il a un peu tendance à disparaître chez nous aussi, mais voilà, il veut son intimité avec Astrid. Et puis voilà qu'Astrid... Alors Astrid aussi, c'est une rebelle aussi. Elle a une autre façon de résister, c'est elle ment sur le réseau. Elle met toujours des statues. Ouais, la vie est trop cool, merveilleusement bien, etc. Mais elle ment, parce que voilà. Bon, elle a cette tactique de dissimulation. Mais Astrid va mourir dans un accident. Et aussitôt, la SED va intervenir pour effacer les chagrins de Silas. Et Silas, il voudrait pas, mais il est obligé. C'est pour son bien. Sauf que, nous disent l'auteur et l'histoire, c'est que n'être sensible qu'aux émotions heureuses et agréables finit par nous plonger dans une béatitude insipide. Il y a un déséquilibre émotionnel. On repose sur deux jambes, ou ça peut être le yin et le yang, vous savez, le positif, le négatif, voilà. Et parce que les moments de la vie désagréables, les peines, les chagrins, nous permettent d'apprécier aussi les bons moments, les heureux événements. Et les émotions négatives, la douleur, le malheur, nous aident à nous construire. On connaît le fameux adage de je ne sais plus qui, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ou comme disait Épicure à Ménécée, j'ai aucune idée de qui était Ménécée. Épicure, c'était un philosophe grec, qui était partisan de jouir de l'instant présent, je crois, c'est ça un peu. Je caricature vraiment à la truelle. C'est un philosophe du bonheur aussi. Hein. Donc, en tout cas, Épicure disait, n'est-il pas vrai que le but de
l'épicurisme,
ouais. Oui, ouais, voilà. C'est ça. Donc, il disait, n'est-il pas vrai que le but de toutes nos actions, c'est de fuir la douleur et l'inquiétude, et que ce terme atteint, l'homme croit être au comble de la félicité. Donc, si tu n'as pas un malheur à fuir, tu ne peux, c'est-à-dire un point de départ, tu n'as pas d'arrivée heureuse.
Ouais.
Également, voilà. Donc, tu deviens une espèce de végétal, de plante verte, très contente dans son pot.
Enfin,
c'est pas très joyeux. Donc, Silas, il va tenter de résister. Il va trouver d'autres résistants, des rebelles, des insoumis qui luttent contre la dictature du bonheur obligatoire. Et je ne vous raconte pas la fin. Il y a un twist final. Très bien. Voilà. Alors, c'est un livre qui nous fait penser, à quoi il te fait penser, Cafard, évidemment. Dans la science-fiction comme ça, rien qui te vient. Si tu vas me dire, ah oui.
Moi, ça me fait penser à Le Meilleur des Mondes.
Où on programme génétiquement les individus pour qu'ils soient heureux. Il y a aussi Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Là, c'est les livres étant porteurs d'idées et d'émotions, donc c'est des potentielles sources de conflits. On va interdire les livres toujours pour le bien des gens, bien sûr. Donc c'est un beau livre, c'est une belle histoire d'amour et qui nous dit aussi qu'être triste, souffrir, ça fait du bien aussi des
fois. Ça fait partie de la vie.
Et ouais.
Mais c'est rigolo.
Hashtag bleu, de Florence Inkel, à la médiathèque, toutes les médiathèques locales, Rodez, Honnel-Château, je sais qu'elles y sont, et à la Maison du Livre si vous voulez la voir ou l'offrir,
De
14 ans,
cadeau,
lisez-le, il est bien.
Un beau cadeau.
Tu voulais dire, Kéfa, pardon.
Ouais, je voulais dire que c'est rigolo parce que ça rejoint une conversation que j'ai eue il y a pas très longtemps. Avec une amie, et on parlait de ça justement, du fait que dans la vie, t'as des hauts, des bas et tout ça. Et du coup, elle disait que la vie, c'est comme un électrocardiogramme, tu vois, il faut que ça monte et que ça descende, Parce que sinon, si c'est tout plat, t'es mort.
C'est ça.
Et moi, je lui disais, une fois, j'avais lu une citation comme ça, où la vie, c'est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour voir les couleurs.
Ah, oh, c'est joli, ça, ouais.
Tu vois, donc, du coup, elle a une. Comment dire? Une formation plutôt scientifique et moi littéraire. Et tu vois, ça se retrouve dans la métaphore pour expliquer point de vue, tu vois.
Chacun utilise les outils qu'il a à sa portée, quand même.
C'est ça. Ouais, ça a l'air très intéressant, en tout cas, ce bouquin-là.
Ça se lit bien. Il y avait un ancien élève qui me conseillait de commencer même directement par le chapitre 2. Et c'est vrai que ça se lit aussi bien comme ça. Vous essayerez, d'une façon ou d'une autre, si vous l'avez.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mitt. En ce qui concerne les actualités littéraires pour ce mois de janvier 2019, eh bien, figurez-vous qu'on n'en a pas.
Il n'y a rien, il ne se passe rien, restez chez vous, lisez des livres, et on est en février.
Voilà, tout simplement parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore validées, et donc du coup, sur tous les sites, il y a écrit un petit peu en cours de construction, Voilà, donc du coup, les actualités littéraires, il n'y en a pas vraiment, mais les livres, il y en a quand même. Donc ça, c'est pas grave. Donc vous pouvez quand même aller à la médiathèque, à la bibliothèque, à la ludothèque, parce que c'est bien aussi de s'amuser. Tous les trucs en tech. Pourquoi pas. La discothèque. Voilà. Et bien sûr, à la librairie. Et puis chez vous, bouquiner un petit bouquin au coin du feu, là, vu qu'il fait très froid en ce moment. Et du coup, Monsieur Mitt, je crois que tu avais une citation très inspirante.
Ouais, parce que j'ai déménagé. Dans les déménagements, ce qui est le plus pénible à déménager après cette machine à laver et le piano à queue que je n'ai pas, c'est la bibliothèque, bien entendu.
Ah ouais, c'est de l'horreur.
En fait, c'est bien parce que tu mélanges tous tes livres et finalement, t'as des vieux livres qui remontent à la surface. Et j'ai retrouvé un livre de citation de François Cavanna, Le saviez-vous, et qui nous dit, par exemple, quand on coupe la tête à deux intellectuels, ils meurent. Voilà, c'était la citation. C'était la citation de l'émission. Merci Cavanna. Voilà.
Merci de commencer cette belle année 2019 par une telle citation. C'est génial. Ok, très bien. Eh bien, c'était les blablates sur CFM Rodez 107.9. On va essayer de trouver Cancrela qui est toujours coincé donc sous la lettre U. Donc peut-être que la prochaine fois elle sera sortie, je ne sais pas. Sinon, on accueillera Monsieur Mitt avec beaucoup de plaisir.
Ok.
Et on vous dit à bientôt.
Ciao.
Ciao.
Salut Cafard.
Salut Cancrela.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah, c'est rigolo. Moi, je blablate de livres jeunesse.
On n'a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois.
Le mercredi à
19h.
Et le samedi à
13h.
Sur CFM
107.9.